Dehors, en ce froid matin de 1979, Téhéran se recouvre peu à peu de noir. Plus rien ne peut arrêter la vague révolutionnaire chargée d'écume de colère qui submerge la capitale iranienne. Le danger est là, désormais, à la porte du musée. Impossible de lui échapper. Son ombre se glisse dans les salles vides, s'immisce dans les couloirs silencieux, plane dans le petit office sombre de l'entresol, prête à dévorer le passé et ses trésors. Les hommes armés de l'ayatollah Khomeini vont se présenter tôt ou tard. Ce n'est plus qu'une question de jour, une question de vie et de mort. Seul dans l'établissement déserté depuis le début de la révolution, Cyrus Farzadi convoque la lumière et la chaleur de ses souvenirs comme un vieux film en technicolor qu'on rembobine. Face à la menace du présent, ils sont tout ce qui lui reste. Si seulement ces fichus tremblements pouvaient s'arrêter. Le jeune homme n'arrive plus à contrôler ses mains qui se tordent d'angoisse et le font terriblement souffrir. 1967. Il s'en souvient comme si c'était hier. La liesse dans les rues scintillantes de Téhéran, les joyeux embouteillages, les femmes maquillées paradant sur les capots des voitures, la musique qui s'élève des échoppes et enveloppe la capitale iranienne de ses notes de fête. Cyrus entre dans l'adolescence. Son père vient d'acheter leur première télévision, un événement pour toute la famille, et cette journée est celle du sacre de l'empereur d'Iran. La cérémonie est filmée pour la première fois en couleur grâce à un nouveau procédé français. Devant les yeux ébahis du petit adolescent des quartiers ouest, le carrosse d'ébène et de perles aux vitres blindées roule sur les 1000 tapis persans qui recouvrent les avenues. Des avions affrétés spécialement larguent 17 532 roses sur la ville, autant de fleurs qu'il y a eu de journées dans la vie du chat. Et Téhéran revit les légendes de la Perse ancienne, replongeant avec exaltation ses habitants dans la grandeur de son passé. Farideh, sa mère adorée, a sorti des tréfonds de son armoire la robe en soie qu'elle a dessinée elle-même et qu'elle porte uniquement pour les grandes occasions. Noire, avec un discret col brodé, elle a mis du rouge sur ses fines lèvres d'habitude si sèches et s'est parfumée de jasmin. C'est sa façon à elle de se sentir invitée, même si elle reste sur le bas-côté. Avec ses yeux d'enfant, il la trouve si gracieuse, si différente des autres jours où la lassitude et le poids des années semblent l'écraser. Mais elle n'est pas aussi belle que la future impératrice, Farah Diba, qui aimante tous les regards. À la télévision, la souveraine de presque 29 ans surgit comme une apparition, majestueuse dans sa robe immaculée, dessinée pour elle par la maison française Christian Dior, avec sa cape de velours et vison incrustée de pierres précieuses. Une œuvre d'art. Armin et Neda, les voisins du cinquième étage, n'ont pas la télévision. Alors ils sont venus profiter de la retransmission avec leur fille Azadeh, âgée de 13 ans comme Cyrus. Le cœur en fête, Farideh sert du thé, des pâtisseries aux amandes et du nougat d'Ispahan. Elle a disposé de confortables coussins sur le tapis fleuri. La joie est entrée dans la maison pour quelques heures. Ils oublient toutes les ruelles crasseuses de leur quartier, les immeubles délabrés, les immondices sur les trottoirs et les visages du désespoir. Aujourd'hui, tout n'est que féerie, rêverie et pierrerie dans cet autre Téhéran où ils ne s'aventurent que rarement. Tous, ils en restent bouche bée. La salle du trône du palais de Niavaran étincelle de toutes ses mosaïques, ses miroirs et ses lustres. Dans cette salle des mille et une nuits, au son des trompettes, le roi, grand admirateur de Napoléon, se fait empereur. Avec des fastes d'un autre âge, il se couronne lui-même et sacre son épouse, une première depuis la fondation de la monarchie persane, il y a 25 siècles. Farah Diba devient officiellement la Shahbanu. Cyrus n'a Dieu que pour cette couronne que le chat dépose avec précaution sur la tête de sa femme, agenouillée à ses pieds. Selon l'empereur, ce geste symbolise l'émancipation de la femme musulmane. L'impératrice renchérira plus tard « Cette couronne affirme solennellement l'égalité de l'homme et de la femme après des siècles d'humiliation. » Quelle merveille ! Le prestigieux quotidien anglais The Times écrira le lendemain qu'elle était aussi spectaculaire qu'une ville en feu. 105 perles, 36 rubis, 36 émeraudes et 1469 diamants, un joyau de 2 kilos spécialement fabriqué par le maître parisien Van Cleef et Arpels. Elle a nécessité 24 voyages à Téhéran et 6 mois de création minutieuse sur place. À travers l'écran de télévision, la couronne impériale brille de ses éclats sacrés, et Cyrus, en fermant les yeux, s'imagine la caresser du bout des doigts. Serrés les uns contre les autres sur le tapis de la salle à manger, la famille et les voisins se plongent avec délices dans ce royaume enchanté qui les fait voyager. Azadeh, la petite voisine, roule des yeux devant les invités parés de tiares, de diadèmes et d'émeraudes plus éblouissants les uns que les autres. Elle s'imagine, elle aussi, héroïne d'un conte de fées au bras d'un prince charmant qui l'enlèverait dans son carrosse en diamant. Tous les rêves sont possibles aujourd'hui. Après tout, rien n'avait prédestiné l'impératrice Farah, autrefois petite étudiante roturière à Paris, à ce destin de papier glacé. En ce jour férié, le temps est suspendu. Le pays a envie de croire, même brièvement, aux promesses de l'empereur autoproclamé. Sur son trône d'or, paré de sa ceinture de rubis, de son sceptre et de toute sa mégalomanie, le chat des chats, l'ombre du Tout-Puissant, âgé de 48 ans, pose ses lèvres sur le Coran, promet un meilleur avenir à ses sujets et jure de défendre la souveraineté de l'Iran. 101 coups de canon actent symboliquement la force de ce jour historique. Une journée lumineuse. Personne n'imagine alors qu'adviendra une époque où il sera interdit d'en parler, où les souvenirs seront enfouis sous les tapis persans. C'était il y a 12 ans. Déjà, une éternité. La première fois que Cyrus rencontrait l'impératrice, sans imaginer que sa route croiserait réellement le chemin de la souveraine, ni qu'elle changerait le cours de son destin. De Farah à la vie, il ignorait presque tout au moment de son couronnement. Sa majesté voulait développer la culture en Iran, disait-on. Faire de l'ancienne et glorieuse Perse un pays moderne et ouvert sur le monde. C'était l'impératrice des arts. L'empereur lui accordait toute confiance et elle faisait ouvrir les musées les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il y connaissait, lui, à l'art, à la culture, à la peinture moderne, le gamin timide qui avait arrêté l'école à 15 ans, fils d'un jardinier et d'une couturière? C'était une toccade des riches des quartiers nord, un hobby de nantis désœuvrés. Les classes populaires de l'Ouest et du Sud n'avaient pas de temps à perdre pour le superflu. Ce n'est pas ça qui aidait à boucler les fins de mois. Le chat avait beau avoir promis d'apporter la prospérité dans chaque famille, sa révolution sociale laissait beaucoup de foyers sur le carreau, creusait des inégalités de plus en plus visibles et semait les germes profonds de la rancœur. Alors, les inaugurations fastueuses, les coupées de rubans à la chaîne, ce n'était ni son univers, ni sa préoccupation. Il n'était pas né pour ça. Ce n'était pas sa place. Ce n'était pas son histoire. Et pourtant, aujourd'hui, en ce mois de mars 1979, chahuté par la révolution islamique, il est l'un des derniers survivants d'un monde en voie d'effondrement. Son destin va se jouer dans les heures ou les jours prochains. Par l'un de ces soubresauts, dont seule la grande histoire a le secret, le voici investi d'une mission qui le dépasse et le terrorise. De lui dépend l'avenir du musée d'art moderne de Téhéran, le préféré de l'impératrice, le plus mystérieux aussi. De lui dépend le sort de 300 tableaux de maîtres occidentaux inestimables, témoins de leur époque et menacés par l'obscurantisme. Une collection unique au monde, en danger depuis qu'un religieux au turban noir a mis la main sur l'Iran. À 25 ans, Cyrus endosse les habits un peu grands de gardien d'un trésor qu'il faut protéger à tout prix contre l'ignorance et la morale islamique, et il est saisi de vertige. À cet instant, les souverains autrefois rois de leur monde ne sont plus qu'un couple déchu poussé à un exil humiliant de pays en pays. L'ayatollah Ruhollah Khomeini impose peu à peu sa valse des corps voilés. De nouveaux interdits remplacent les précédents. Les pays occidentaux se demandent si cette révolution, qu'on appelle islamique, est un feu de paille ou si l'Iran est définitivement tombé entre les mains des mollahs. La collection de l'impératrice, unique au Moyen-Orient, est considérée comme impie aux yeux des nouveaux maîtres du pays parce qu'elle représente tout ce que le nouveau régime vomit.